Il faut se souvenir que dans l'Église primitive, il y avait de grosses différences sociales, bien plus que maintenant, hein, y compris des esclaves. Au lieu que ces différences sociales soient gommées lors de leur réunion, elles étaient plutôt aggravées par le mépris avec lequel les riches traitaient les pauvres, notamment les esclaves qui venaient participer au repas fraternel après leur service et n'avaient probablement pas grand-chose à manger. Ceux qui avaient les moyens faisaient bonne chère, voire même s'enivraient, et n'attendaient même pas les frères et sœurs de conditions plus modestes pour se mettre à table. Bon, ça ne se passe pas comme ça chez nous, hein, j'en suis bien d'accord. Hein. Paul rappelle comment le Seigneur a institué la Sainte Cène au cours du dernier repas qu'il a pris avec ses disciples. Relisons le texte, verset 23. « Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. » Alors Paul n'était pas présent lorsque Jésus a pris ce dernier repas avec ses disciples. Certes, ce moment si particulier a probablement été évoqué lors de ses contacts avec les principaux apôtres de Jérusalem. Mais Paul dit qu'il a reçu cet enseignement du Seigneur. Il fait sans doute allusion à une révélation spéciale, comme pour d'autres d'ailleurs, et qui sont un des signes de l'authenticité de son apostolat. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain, et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps, il est pour vous, faites ceci en mémoire de moi ». De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang, faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi ». Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. Et donc il ajoute ce fameux verset 27. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Alors à votre avis, de quelle indignité parle-t-il dans ce contexte? À l'évidence, d'après ce qu'on vient de dire, hein, du peu de cas que les frères et sœurs aisés faisaient de leurs frères et sœurs de plus basse condition lors de ces repas fraternels. En faisant cela, ils se rendent coupables envers le corps et le sang du Seigneur, c'est-à-dire au regard de sa mort consentie pour racheter les hommes de leurs péchés. Là, ils péchaient clairement envers leurs frères et sœurs pour lesquels le Seigneur a donné sa vie. Verset 28, d'où l'exhortation de Paul. Que chacun s'examine soi-même sérieusement et qu'après cet examen, il participe au pain et à la coupe. Notez au passage que l'exhortation n'est pas de s'abstenir, mais de juger son propre comportement, de s'en repentir et de prendre après cet examen sincère le repas du Seigneur. Et donc le fameux verset 29, « Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps » se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. Vous notez la différence d'expression que Paul utilise dans ce verset. Il vient de parler du corps et du sang du Seigneur, c'est-à-dire de sa mort, de son sacrifice. Au verset 29, il parle seulement du corps. S'agit-il d'une expression abrégée pour désigner la même chose? Ou Paul parle-t-il d'autre chose? La question est d'importance. Et pour y répondre bibliquement, il faut se souvenir de l'enseignement de Paul au chapitre précédent, donc au chapitre 10. Le contexte de ce chapitre 10, c'est l'avertissement de Paul de fuir les cérémonies où les païens offraient des sacrifices à leurs idoles. Dans 1 Corinthiens 10, au verset 16, Paul écrit « La coupe de reconnaissance pour laquelle nous remercions Dieu » ne signifie-t-elle pas que nous sommes au bénéfice du sacrifice de Christ, qui a versé son sang pour nous? Et le pain que nous rompons, ne signifie-t-il pas que nous sommes au bénéfice du corps de Christ offert pour nous? Bon, ce que Paul dit au chapitre 11 a la même signification, mais pour un but différent. Là, c'est pour que les Corinthiens se gardent de la confusion avec les pratiques païennes, dans ce chapitre 10. Hein. Mais Paul continue au verset 17. Du chapitre 10. Comme il n'y a qu'un seul pain, nous tous, malgré notre grand nombre, nous ne formons qu'un seul corps, puisque nous partageons entre tous ce pain unique. pense que la clé, là, c'est nous ne formons qu'un seul corps. Paul parle donc là, je pense, du corps spirituel de Christ, c'est-à-dire son peuple, l'Église, et non pas de son corps physique, sur la croix. Alors revenons à 1 Corinthiens 11, verset 29. « Celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps, se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. » Le texte grec dit littéralement « Celui qui mange et boit sans discerner le corps, mange et boit un jugement contre lui-même. » Alors, que signifie « sans discerner le corps » ? Cela signifie-t-il sans se rendre compte que la Sainte Cène est le symbole de la mort du Christ ? Ce serait bien étonnant que les Corinthiens ignoraient cette signification. Et pourquoi Paul parle-t-il à cet endroit précis uniquement de ne pas discerner le corps, sans mention du sang, et donc de la mort de Christ ? C'est très probablement parce que Paul pense là au sens spirituel de l'expression « corps de Christ », tel qu'il l'a donné au chapitre précédent. Ces nombreux enfants de Dieu qui constituent le corps spirituel de Christ. Alors Paul tire les conséquences disciplinaires de ce qu'il vient d'établir. Au verset 30, « C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes, et qu'un certain nombre sont morts. Si nous discernions ce que nous sommes, nous ne tomberions pas sous le jugement. Mais les jugements du Seigneur ont pour but de nous corriger afin que nous ne soyons pas condamnés avec le reste du monde. » L'apôtre Pierre écrit en 1 Pierre 4, verset 17, « Maintenant a lieu la première étape du jugement. Il commence par le peuple de Dieu. » Le jugement dont parle Paul est sévère, puisqu'il se traduit par des maladies parmi les Corinthiens, voire même des décès. Alors on comprend peut-être un peu mieux maintenant de quelle indignité Paul parlait. Cette indignité, c'est le comportement des Corinthiens lors de ses repas fraternels, au cours desquels ils prenaient le repas du Seigneur. Ce comportement faisait injure à son corps, c'est-à-dire à leurs frères et sœurs chrétiens. Il n'y a là rien de mystique. Il ne s'agit pas d'une injure envers le sacrifice du Seigneur, le corps et le sang, une sorte de sacrilège, mais envers son corps spirituel, les autres chrétiens, moins fortunés, qu'il traitait de manière méprisante, peut-être sans s'en rendre compte. Et c'est là qu'il y a défaut de discernement. Et de ce fait, le Seigneur est obligé de juger ce comportement. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit à ses destinataires qui passent par des épreuves, en Hébreux 12, verset 5, « Vous avez oublié cette parole d'encouragement que Dieu vous adresse comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Le châtiment dont il est question ici, ce n'est pas un châtiment eschatologique, hein, c'est un châtiment présent. Le jugement dont Paul parle dans ce passage est donc bien celui que le Seigneur est contraint d'exercer envers les siens en cette vie, ses fils, pour qu'ils ne soient pas condamnés avec le monde. Alors, conclusion de ce qu'on peut tirer de ce passage. Lorsque nous invitons les frères et sœurs à participer au repas du Seigneur, il est bon en effet que chacun s'examine soi-même, particulièrement son comportement envers les autres. Cet examen doit idéalement être fait avant même de venir au culte. Et s'il y a problème, il doit être réglé. Et si le problème a pu être réglé, il faut participer et non s'abstenir. Ce texte ne concerne pas du tout les inconvertis, qui peuvent pour diverses raisons se trouver dans la salle. Par exemple, nos enfants, qui ne sont pas encore au Seigneur, ou des personnes adultes, mais qui n'ont pas plus fait le pas de la foi. Les avertissements de Paul ne s'adressent pas à eux et par conséquent pas non plus les jugements qu'ils comportent. En revanche, ce peut être l'occasion d'exhorter à la conversion toute personne qui n'a pas encore fait ce pas de foi. Car n'oublions pas que selon le verset 26, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur et ceci jusqu'à son retour. Il y a une annonce là. À qui annonçons-nous la mort du Seigneur ? Alors je pense que nous nous la rappelons mutuellement, et c'est très bien, c'est nécessaire. Mais aussi nous l'annonçons à ceux qui ne lui appartiennent pas encore, et particulièrement à nos enfants, ou à toute personne inconvertie qui assiste au culte. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il est bon que nos enfants soient présents lorsque nous célébrons la Sainte Cène. Et il n'est pas sans intérêt que des personnes non encore converties nous voient pratiquer ce geste, car nous leur annonçons la mort du Seigneur jusqu'à son retour. N'oublions pas que le retour du Seigneur que nous proclamons ainsi est aussi le moment où il jugera toutes ses créatures. Donc c'est un avertissement solennel et je pense judicieux. Tout récemment, Chantal a rencontré un ami chrétien qui faisait partie de l'assemblée qu'on avait fréquentée autrefois et qui me disait je vais plus très souvent à l'église. J'étais un peu découragé. Et puis finalement, il a posé une question à Chantal. Finalement, mais à quoi ça sert de se rassembler? Bon, on est chrétien, on est sauvé. Pourquoi est-il nécessaire de... pourquoi le rassemblement? C'est bien la question qu'il a posée. Hein, voilà. Je pense que c'est une question vraiment, naïve. Hein. C'est complètement ignorer cette réalité extraordinaire du corps de Christ. Le Seigneur nous a donné des frères et sœurs. Ce corps de Christ qui mérite tout notre amour, toute notre attention. Quand nous venons nous rassembler, bien sûr c'est pour adorer le Seigneur, bien sûr c'est pour écouter sa parole, bien sûr c'est pour l'honorer, bien entendu. Mais c'est aussi pour nous honorer les uns les autres. Et je pense que c'est là le point sur lequel Paul avait à faire des reproches aux Corinthiens. Alors pensons-y, quand nous sommes ensemble, on a ce privilège extraordinaire de pouvoir se rassembler, mais c'est aussi, là nous manifestons l'unité du corps de Christ, hein, et au-delà même, bien sûr, notre rassemblement local, tous les chrétiens qui sur cette terre participent à ce geste, en mémoire du sacrifice du Seigneur.